Ne soyez pas timide. All right. Magnifique. Alors, ces couples, juste, est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous avez été un petit peu brassés? Oui, hein? Ok. Est-ce que dans votre couple, vous avez vécu des transformations qui vous emmènent plus loin? Oui, hein? Bon. Alors, n'hésitez pas après le culte d'aller voir ces couples-là, les couples de l'Église, leur poser des questions. Je crois qu'il est important, il est nécessaire d'investir dans vos couples, dans les couples, dans la vie conjugale, de vivre, de grandir en tant que couple. On n'est jamais arrivé. Et vraiment, je veux remercier ces couples qui ont dit oui à Dieu, qui ont dit oui, des fois, à des difficultés. Alors vraiment, je vous remercie. Puis, je souhaite qu'il y ait encore plus de couples qui participent à ces ateliers. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Donc, je vous invite, soyez à l'aise. C'est vraiment un investissement que vous faites. Et nous prenons le temps d'en parler, même si ton couple va très bien. Okay? Il peut encore aller mieux. Il peut aller mieux. En ce moment, même moi, je suis juste pour préparer cette pensée que je vais vous partager aujourd'hui. Il y a des pépites d'or qui sont sorties de la parole de Dieu pour mon couple, en tout cas pour mon caractère. Alors que je préparais cette pensée, alors on ne cesse de grandir. Si on arrête de grandir, c'est qu'on est malade ou on est mort. Mais on est appelé à grandir. Il y a des retours, j'entends des retours dans les... je ne sais pas si c'est lié, mais si on peut fermer les retours, ce serait apprécié. Alors, avant de partager la parole, j'aimerais qu'on prie ensemble, et puis on va regarder ce que la parole de Dieu peut nous donner aujourd'hui, nous communiquer aujourd'hui, pour nous faire du bien, pour nous amener à vivre des changements. Seigneur, je me tiens devant toi ce matin, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, je veux te souhaiter la bienvenue. Seigneur, que ta parole puisse transformer nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, puisse agir. Seigneur, que nous soyons une lumière, Seigneur, dans notre foyer, dans nos couples, dans nos foyers, mais que nous soyons aussi une lumière dans la ville, que nous puissions bénir nos voisins, que nous puissions bénir nos employés, nos collègues. Seigneur, que nous puissions être une bénédiction autour de nous. Seigneur, tu veux nous faire du bien. Et Seigneur, nous ne poursuivons pas ta bénédiction, mais nous voulons te poursuivre, toi. Seigneur, nous n'avons pas poursuivre, Seigneur, les ressources du royaume, mais nous voulons poursuivre le royaume. Nous voulons être dans ta présence. Seigneur, tu t'intéresses à chacun de nous et que ta parole, ce matin, puisse faire du bien et nous amener plus loin avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Je veux, avant de poursuivre, prier pour deux familles qui sont éprouvées en ce moment. Cet été, on a appris le décès du papa de Fabiola, une de nos conductrices de louange. Et aussi, hier, j'ai appris, plusieurs ont appris le décès aussi du père d'un frère, le frère Emmanuel, qui a perdu son papa, qui est pasteur en Afrique. Et nous voulons prier pour ces familles qui sont endeuillées. Fabiola va partir en Côte d'Ivoire en septembre pour les funérailles. Notre frère Emmanuel ainsi que son épouse Sandra partent aujourd'hui justement pour les funérailles du père d'Emmanuel. Et nous voulons prier en tant que famille, nous voulons prier pour eux. Je remercie plusieurs leaders, plusieurs personnes qui sont allées les visiter. Et vraiment, je pense que ça démontre aussi cette dimension familiale qu'est le Carrefour des Nations. Donc simplement, vous accordez avec moi et on va prier pour ces deux familles. Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur, tes enfants, Seigneur, qui ont perdu, Seigneur, leur père. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ta consolation, toi qui es le Père par excellence, que tu puisses te tenir à leur côté, que tu puisses les consoler, les fortifier, les soutenir. Et Seigneur, je te demande, Père, Seigneur, qu'en tant que famille, nous puissions, Seigneur, prier pour eux, Seigneur, leur écrire un mot, les appeler, mais qu'ils sachent que nous sommes aussi une extension de ton royaume, que nous prodiguons, Seigneur, les valeurs du royaume des cieux, que nous les aimons et qu'ils soient soutenus, que leur famille soit soutenue et trouve consolation en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dimanche dernier, ou plutôt il y a deux dimanches de cela, je vous ai partagé une pensée liée à vivre le repos de Dieu. Et ce matin, je pense que je vais tâcher d'aller dans le rythme de Dieu. Il y a ce verset que j'avais lu il y a quelques semaines dans Matthieu chapitre 11, le verset 29. Il n'est pas dans la liste Ruth, mais j'aimerais le lire parce que Jésus parle à ses disciples et il va dire ceci au verset 29, acceptez, donc Matthieu 11, verset 29, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. Et le mot exigence, dans ce contexte, peut être traduit par ma loi. Accepter ma loi. Il y a la version Semeur dit prenez mon joug et mettez-vous à mon école. Le Seigneur veut nous inviter à accepter sa loi. Parce que sa loi n'est pas dure, n'est pas lourde. Il est Dieu, le Seigneur est doux et humble de cœur. Et en acceptant ses exigences, en acceptant sa loi, on va trouver un repos pour nous-mêmes. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer sur cette pensée liée au repos du Seigneur, le repos de Dieu. Et j'aimerais ensemble qu'on puisse parcourir la suite du texte que j'avais lu il y a deux semaines concernant David, qui, je crois, illustre un peu le cœur de Dieu concernant le repos. Il y a deux semaines de cela, j'avais mentionné que le repos, lorsqu'on le regarde dans le dictionnaire, le repos signifie une cessation d'activité. C'est un état qui... c'est l'état de celui qui termine un travail. Mais je crois que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que la Bible dit concernant le repos de Dieu. Pourquoi je veux aujourd'hui vous parler à nouveau de vivre le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est celui qui est offert par Christ et qui n'est pas une cessation d'activité, mais un repos intérieur dans l'activité. Vivre le repos de Dieu, c'est se tenir et vivre là où Dieu se trouve. Là où Dieu est. Et il y a deux semaines, je vous disais que le repos de Dieu a été la première activité que Adam et Ève ont connue. C'est drôle, hein? Ils n'ont pas travaillé, mais ils sont rentrés dans le repos de Dieu. Et le péché a fait une cassure, les a séparés de cet état de repos en Dieu. Le repos de Dieu nous permet d'accomplir les désirs et les rêves que Dieu a pour nos vies. Et Job, dans le livre de Job, il va être mentionné au verset 1 du chapitre 14, « L'être humain né de la femme, sa vie est courte, mais pleine d'agitation. » La vie de l'homme est courte et l'auteur du livre de Job fait ressortir que cette vie est pleine d'agitation, pleine d'anxiété. Et le mot anxiété ou le mot agitation fait allusion à une vive inquiétude. On vit, mais la vie, notre vie est courte et elle est agitée. Et la notion d'agitation ou d'inquiétude fait référence à une absence de repos, une absence de paix. Et ce qui est intéressant, il y a deux semaines, c'est que je prenais l'exemple de l'histoire de David, un pan de son histoire, un pan de sa vie où il s'est retrouvé en pleine anxiété, en pleine agitation, alors qu'il revenait, si on pourrait dire, qu'il revenait du travail. Il rentre dans sa ville, Tisglag, et là, il voit une ville qui est complètement ravagée, les maisons sont détruites, et les enfants, les fils, les filles, les épouses ont été enlevés, le bétail a été pris, et c'est l'anxiété qui assaille le cœur de 600 hommes qui étaient avec David. Et je vous ai mentionné que David se confia en l'Éternel de sorte qu'il retrouva des forces. Et ça a été une introduction pour moi pour parler du repos qui se trouve en Dieu. Vous savez, la puissance de se trouver ou de se placer là où Dieu est ou de marcher avec Dieu a un tel impact qu'il peut même bouleverser un territoire, qui peut amener un territoire, même un territoire physique, à vivre le repos de Dieu aussi. Dans Lévitique chapitre 25 au verset 2, il est dit ceci, c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. » Lorsqu'une nation, lorsque quelqu'un marche, accepte de se placer dans le repos de Dieu, ce qui l'entoure est bouleversé et même est appelé à vivre, à avoir les conséquences qui se trouvent en Dieu, à vivre un repos, à être restauré. Et ce matin, je voudrais être vraiment avoir un cœur à cœur avec vous. Parce que je crois que lorsqu'on lisait ce texte dans 1 Samuel chapitre 30, on voit ces hommes qui pensaient tuer David parce qu'ils étaient tellement découragés. J'ai du mal à imaginer me trouver à sa place. Tu reviens du travail où tu as été travailler à Montréal ou au Saguenay ou dans une autre région du Québec et tu retournes à Québec et il y a un quartier qui a été complètement passé au feu. Tu ne sais pas où sont tes enfants, où est ton époux ou ton épouse. Tu essaies de voir sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des annonces. Vous imaginez le stress que ça peut générer. Et à cette époque, lorsque des armées ennemies attaquaient et pillaient des villes, on pouvait craindre pour l'avenir des prisonniers. Mais David se confia en l'Éternel. Ce matin, je veux vous rappeler, il y avait cette étape où ces 600 hommes ont décidé à cause de la posture de David, qui s'est confié en Dieu, cette confiance a rassuré les soldats qui étaient avec David. Vous savez, j'écoutais une prédicatrice cette semaine et elle disait, tu sais, la première chose que tu dois faire, prends le temps de prier. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Tu te lèves le matin, même si tu n'es pas matinal. Tu te lèves le matin, ose au moins partir de la maison en priant. Prends le temps de prier, même si c'est 30 secondes. Prends le temps de regarder à Dieu. Prends le temps de lire quelques versets. Si tu n'es pas matinal sur l'heure du midi, assieds-toi, ne va pas dîner avec tes collègues, mais prends le temps, prends ta Bible et prends le temps de regarder à Dieu. Oh, nous avons ce privilège d'avoir accès non pas à des ressources, mais à celui qui est la source de toutes choses. Et ce qui est intéressant avec David, c'est que dans une situation d'angoisse comme il a vécu, il a regardé à Dieu. Et je vous ai mentionné que c'était comme sa pratique. Dans tous ces moments d'épreuve, de défi, et même dans ces moments de bénédiction, il regardait à Dieu. Il consultait Dieu. Et quand il n'a pas fait, il s'est retrouvé dans les problèmes. Je crois qu'il est important pour nous de demeurer dans la présence de Dieu, de demeurer dans son repos. Et alors que ces 600 hommes partaient rattraper les Amalécites qui avaient détruit la ville où ils vivaient avec leur famille, il y a eu 200 hommes, si vous vous souvenez, il y a eu 200 hommes qui étaient fatigués et qui se sont arrêtés au torrent de Besor. Le mot, je vous ai dit même, le mot s'arrêter en hébreu peut être traduit par rester, demeurer, s'asseoir, être assis ou habiter. Et c'est étonnant que ce que j'aimerais faire avec vous, c'est qu'on puisse voir un petit peu la perspective de ces 200 hommes. David accepte, les laisse s'installer près du torrent, demeurer là alors qu'ils sont fatigués. Et on ne sait pas pourquoi, à part l'information qui nous est donnée, qu'ils étaient fatigués, mais les 400 autres, est-ce qu'ils n'étaient pas aussi? Il faut savoir que ces hommes qui marchaient avec David, c'était des guerriers, ils savaient se battre. Ils ont vécu dans les montagnes, dans les grottes, ils savaient se battre. Mais parmi eux, ce jour-là, il y en avait eu 200 qui étaient épuisés. Et ce qui est intéressant, c'est que David ne s'est pas fâché, mais il les a laissés au torrent, comme nous dit 1 Samuel chapitre 30, les versets 9 et 10. David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Ils s'arrêtèrent au torrent de Besor, où ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que les 200 s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Alors, ces hommes se sont arrêtés près d'un torrent, épuisés, accablés par les situations. Et ils ont laissé leur chef David partir. Ils sont partis. Ils se sont peut-être posé des questions. Est-ce que David va revenir? Est-ce que nous allons retrouver nos enfants, nos épouses? Et pendant ce temps, en fait, ça a duré à peu près, probablement au moins 2-3 jours comme ça, ou peut-être 4 jours. Et pendant ce temps, il devait faire confiance à David. Il devait faire confiance à son leadership, mais aussi à sa bonté. Et lorsqu'on s'assoit, lorsqu'ils se sont assis, je crois qu'ils étaient conscients que David avait choisi de prendre soin de ces hommes-là. Et pour moi, vivre le repos de Dieu, c'est aussi savoir que c'est Dieu qui nous choisit. Ce qui nous permet de rester assis, de rester confiants. Et j'aime cette pensée de savoir que Dieu te choisit, de savoir que Dieu me choisit. Y a-t-il un texte biblique qui mentionne que Dieu nous choisit? Y a-t-il une pensée dans les Écritures où on peut saisir et croire que Dieu nous choisit? Et je crois que le repos de Dieu commence là, par le choix que Dieu fait de nous choisir. Vous savez, je crois que ces trois mots, « je te choisis », constituent le fondement de la relation que Dieu veut établir avec nous. Si on va dans Jean chapitre 15, verset 16, on va découvrir combien Dieu nous a choisis. Jean chapitre 15, au verset 16, va dire ceci. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Alors on va se dire, mais comment ça? Tu sais, ma mère m'a parlé de Dieu, m'a parlé de Jésus, et puis je lui ai donné ma vie, j'ai choisi Jésus. Un collègue ou un pasteur ou quelqu'un qui fréquente une église m'a parlé de Dieu et j'ai tourné mon cœur vers le Seigneur. C'est moi qui l'ai choisi en premier. Mais si on regarde la chronologie des événements, en fait, c'est Dieu qui nous choisit le premier. Jésus nous a choisi, t'a choisi dans les circonstances les plus difficiles. Et j'aime ça de la part de Dieu. Il nous a choisi alors que nous étions dans le péché, alors que nous étions son ennemi. Et on peut regarder l'histoire de notre vie et on peut dire, oui, j'ai pas mal été l'ennemi de Dieu en haïssant ma sœur. Oui, on a grandi ensemble, mais je la détestais, celle-là. Toujours à rapporter toutes les gaffes que je faisais, les mauvais coups que je faisais avec mes amis à l'école. Ah, je l'ai haï, moi aussi, je lui ai fait des mauvais coups. Jésus nous a choisis alors qu'on était son ennemi. Et vous savez, écoutez bien cette phrase. Du côté de Jésus, la relation avec toi, avec nous, ne dépend pas de ton choix ou de notre choix, mais entièrement du sien. Il t'a choisi. Jésus nous a choisis avant même qu'on le connaisse. Et sa relation avec toi ne dépend pas de tes choix. Jésus a décidé de nous aimer. Oui, peu importe ce que nous faisions, l'amour que Dieu a pour nous n'a pas changé. Et il désire qu'on sache que sa relation avec nous est basée sur son choix. Je vais illustrer cela. Il y a un pasteur qui disait, il fait beaucoup de relations d'aide, il rencontre beaucoup de couples, il rencontre des jeunes, et puis il a rencontré un jeune homme à un moment donné, puis lui a dit, mais c'est quoi le type de fille ou c'est quoi la fille de tes rêves? Quels sont les critères que tu as pour choisir ton épouse? Et puis il a dit, je veux qu'elle soit canon. Je veux que ce soit une super fille, je veux que ce soit un top modèle. Et si une fille comme ça me dit, je veux sortir avec toi, je te choisis, je serai le gars le plus heureux. Là, il y a un problème qui se pose. Parce qu'il va être heureux parce que quelqu'un d'autre l'a choisi. Donc le jour où cette fille ne va plus l'aimer, ou le jour où une fille plus canon, plus jolie, plus top modèle va se présenter à lui et va lui dire « Je t'aime, je veux être avec toi », il va peut-être aller dans un autre choix. « Ah, il y en a une autre qui me choisit. » C'est un modèle de relation qui est non fonctionnel. Nous devons fonctionner sur le choix. Je choisis d'aimer telle personne. Et Dieu a choisi de nous aimer, peu importe nos propres choix et nos comportements. Il choisit de t'aimer. Et il désire exposer son amour. Il désire que tu goûtes à son amour pour faire le choix aussi à ton tour de marcher avec lui. Savoir qu'on est aimé de Dieu ne dit pas qu'on va être sauvé, parce qu'on a un choix à faire. Mais son amour ne changera pas. L'amour qu'il avait pour toi alors que tu ne le connaissais pas est le même aujourd'hui alors que tu le pries, alors que tu passes du temps avec lui. C'est le même amour qu'il a. Son amour ne change pas. Son amour est complet et total. Il est inconditionnel. Il n'a pas de condition. Et alors que ces 200 hommes sont restés près d'un torrent, ils recevaient le témoignage de David qu'il les avait choisis. Et je crois que c'est important, on va voir même plus loin dans le texte, il va revenir, lorsque David va revenir, il va s'enquérir, il va leur demander comment vous allez, comment ça va. Parce qu'il se préoccupait de ces 200 hommes qui sont restés en arrière. Et ce que j'aime dans ce comportement, c'est que David était en train d'exprimer le cœur de Dieu. Vous êtes fatigués, vous êtes épuisés. Oui, il y en a 400 autres qui sont capables de continuer. Pourquoi vous ne continuez pas? Il ne leur a pas posé la question. Il a dit, restez là, reposez-vous. Et bénéficiez du repos dont vous avez besoin. Pendant que vous vous reposez, il y a des choses qui ont pris place. Pendant que vous vous reposiez, on n'a pas décidé de vous oublier. Pendant que vous vous reposiez, nous avons continué notre marche et nous avons aussi manifesté le même cœur envers d'autres qui étaient éprouvés. Et il y a 2 semaines, je vous parlais de cet Égyptien qui était un esclave, qui a été retrouvé sur le chemin alors que David et ses 400 hommes poursuivaient ces Amalécites qui avaient détruit leur ville. Et vous savez, c'est vraiment, quand on lit le texte, on peut voir des illustrations de la vie quotidienne et du comportement même de l'ennemi. Cet Égyptien avait été abandonné, il était esclave, un esclave d'un Amalécite. Il avait été abandonné et ça faisait 3 jours et 3 nuits qu'il n'avait ni bu ni mangé. Et pourquoi il avait été abandonné? Parce qu'il était malade. Il avait été jeté comme un vieux mouchoir dans lequel on avait mouché. Rejeté parce qu'il avait une faille. Et des fois, on applique ce comportement à Dieu, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne va pas te rejeter. Dieu ne va pas te jeter comme un vieux mouchoir. Mais au contraire, il va te restaurer. Il va te relever. Et j'avais fait allusion à ce qu'ils avaient fait, le comportement qu'ils avaient fait. Qu'est-ce que David a fait? Il lui a donné à boire de l'eau. Et à manger. Il y avait comme une communion qui prenait place. Moi, j'aime ça. Même si tu n'es pas du peuple de Dieu, on va prendre soin de toi. Parce que Dieu t'aime. Et ne croyons pas que au sein du peuple d'Israël, il n'y avait que des descendants d'Abraham. Parce qu'à la sortie d'Égypte, et je ne veux pas faire trop d'écart, mais à la sortie d'Égypte, il y a des gens qui sont partis de notre nation, qui sont partis avec le peuple d'Israël. Et même David avait des grands-parents, des arrière-grands-parents qui venaient de Moab. Parce que Ruth, c'était une de ses ancêtres. Dieu ne fait exception de personne. Peu importe ta condition hier ou aujourd'hui, ou même demain, Dieu veut entrer en communion avec toi. Il veut te donner le pain. Il veut te donner même... Des fois, le pain, c'est bon, mais des gâteaux de dattes, c'est meilleur. Hein? Ben, il a eu des gâteaux de dattes. Tu sais, dans le désert, quand il fait chaud, il ne faut pas boire de liqueur. Coke, Pepsi, Sprite, c'est déconseillé, ça déshydrate. Donc, qu'est-ce que David a donné? C'est de l'eau. Même le café, ça déshydrate. Donc, ils ont posé le bon geste, lui ont donné de l'eau. Dieu veut rafraîchir, Dieu veut restaurer. Est-ce que l'Égyptien était juste? Est-ce qu'il avait prié Dieu? Est-ce qu'il avait jeûné? Mais c'est vrai qu'il n'avait pas mangé. Mais Ce n'était pas sur la base de ses œuvres que David et ses hommes ont pris soin de lui. C'est simplement parce que c'est un être humain. Dieu ne fait exception de personne. Et je crois que Dieu avait choisi. Dieu avait aussi choisi cet Égyptien. Et ce qui est intéressant, on va voir le texte dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 11. Ils trouvèrent dans les champs un Égyptien qu'ils conduisirent vers David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et lui donnèrent un morceau de gâteau aux figues sèches et deux gâteaux aux raisins secs. C'est bon les gâteaux aux raisins. Lorsqu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait pas pris de nourriture et pas bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui appartiens-tu et d'où viens-tu ? » Il répondit, « Je suis un jeune Égyptien. J'étais au service d'un Amalécite, mais voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Et là, il explique ce qui s'est passé avant. « Nous avons lancé une attaque dans le sud du territoire des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au sud du territoire de Caleb. Nous avons brûlé Tisglag. » Et c'est intéressant qu'il dit ce qu'il a fait et peut-être la première chose, en tout cas, que certains feraient, c'est qu'il aurait déjà repris la nourriture, peut-être frappé ou tué parce que tu es dit... ou torturés pour avoir des informations. Mais ils n'ont pas fait ça. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Il répondit, « Jure-moi au nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. » Puis des fois, il faut lire entre les lignes. Hein. Verset 16, il lui servit ainsi de guide. Donc, l'Égyptien a eu cette garantie qu'il ne sera pas tué et qu'il ne sera pas livré à son maître. Qu'il ne sera pas livré à son maître. Parce que le verset 16 dit que cet Égyptien a servi de guide. Et on va lire le texte ensemble pour voir un petit peu l'ampleur de la situation. Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient, buvaient, et dansaient à cause du grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Juda. Alors c'est intéressant de voir ça parce que nos 200 hommes qui sont restés au torrent de Besor, peut-être qu'ils priaient ou peut-être qu'ils essayaient de retrouver des forces, ils mangeaient des gâteaux aux raisins, mais il y avait cette douleur de « est-ce qu'on va retrouver nos familles ? Comment on va faire pour rebâtir nos maisons ?» Parce qu'elles ont été brûlées, elles ont été détruites. Et c'est là, je crois, que dans toute situation d'épreuve, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons vivre dans le repos de Dieu. Je me souviens... Il y a plusieurs années de ça, notre appartement a failli passer complètement au feu. C'était en plein hiver et on s'apprêtait pour aller glisser, faire des jeux d'hiver, aller faire de la luge avec notre premier garçon qui devait avoir peut-être 4 ans ou 3 ans. Et on se préparait pour sortir. Et moi, je n'étais pas dans le repos de Dieu ce jour-là. Il dit, mais là, il faut faire vite, allez, il faut mettre le manteau, il faut mettre la combine pour notre garçon, il doit s'habiller, il faut faire vite, le temps passe, allez, il faut qu'on en profite. Et puis, on se préparait. En plus de ça, ma mère qui vient des îles était avec nous, et je disais à ma mère, habille-toi bien, prépare, parce qu'il fait froid dehors, donc on va aller se balader, on va aller glisser un peu. Tu pourras t'asseoir, il y a une cafétéria, tu pourras prendre un café chaud ou un chocolat chaud, mais il faut qu'on fasse vite. Mais il y avait quelqu'un dans la maison qui était dans le repos. C'était mon épouse. Elle se pressait pas, relax. Elle était là, elle dit oui, puis préparer le sac de couches et puis des collations. Puis je disais, chérie, il faut faire vite, il faut qu'on y aille. Ah, je comprends pas, habituellement, tu veux qu'on soit les premiers dehors, puis qu'est-ce qui se passe? Il faut y aller. Et puis mon épouse était bien relax. Et puis là, elle me dit, il y a une drôle d'odeur dans la maison. Je dis, mais on n'a pas le temps de faire ça après. Et puis là, je réalise qu'effectivement, il y avait une drôle d'odeur dans la maison. Et là, je dis, mais attends une minute, je vais quand même aller vérifier. Est-ce que c'est les poubelles? Est-ce que c'est... Non, ce n'était pas les poubelles. Est-ce que c'est où? Puis là, j'essaie de renifler. Et puis là, ça me conduit, oui, à la cuisine, ensuite à la salle à manger. Et puis là, je vais vers les fenêtres. Non, il n'y a rien là, ce n'est pas là. Puis je me tourne vers le panneau électrique. Je l'ouvre et puis il y a une flamme électrique qui est sortie. Il y avait plein de fumée et puis ça commençait à brûler. Ah ! Entre parenthèses, heureusement que mon épouse était tranquille. Parce qu'on serait parti et l'appartement aurait pris feu. Et peut-être le bloc, en tout cas, ou d'autres appartements ont été touchés. Et puis moi, je paniquais. Je dis, il faut faire quelque chose. Je suis allé dans les escaliers de secours. J'ai pris un extincteur. J'ai ouvert avec un bâton la boîte électrique. J'ai essayé de... Et ça ne s'éteignait pas. Et j'imagine que ceux qui sont habitués à l'électricité savent pourquoi. Je m'éteignais. J'ai enduit toute la cuisine, la salle à manger de poudre d'extincteur. Je n'arrivais pas à éteindre le feu. Et puis, là, j'ai dit, il faut y aller. Et tellement même ma mère était dans le repos de Dieu qu'elle m'a dit, attends, il faut que mes cheveux soient corrects pour que je sorte. J'ai dit, maman, il y a le feu. Je dis, hey, mes cheveux, est-ce que ça va? Ok, on y va. Mais ce jour-là, parce que mon épouse était calme, parce que mon épouse était en paix, elle a pu discerner que non, on n'a pas à se précipiter. Il semble qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'il faut qu'on discerne. Et les pompiers sont arrivés, ils ont éteint le feu. Mais je bénis Dieu, notre appartement n'a pas été endommagé au point qu'ils doivent refaire des réparations. C'est juste quelques murs qui ont dû être réparés. Un beau nettoyage qui a été fait grâce à notre compagnie d'assurance. Être dans le repos de Dieu, c'est aussi faire les bons choix. Si vous n'avez pas d'assurance habitation, prenez-en une. OK? Parce qu'on a été logé à l'hôtel pendant ce temps, pendant qu'ils faisaient les travaux, les réparations. On a été bénis. Mais je vous raconte cette histoire parce qu'il est nécessaire, quelles que soient les circonstances, de s'imposer d'aller dans le repos de Dieu. David s'est fait violence en se tournant vers Dieu. Et l'atmosphère a changé. David n'était ni roi, ni descendant de Lévi, mais il a pris l'éphod qui était destiné au sacrificateur. Il s'est tourné vers Dieu, il a consulté Dieu. Et ceux qui consultent Dieu, ceux qui se tournent vers Dieu, peu importe les situations, vont être plus que vainqueurs. Dieu désire qu'on se repose en lui. Dieu désire qu'on prenne son joug, qu'on accepte ses exigences, qu'on accepte ses principes, sa loi, qu'on aille à son école, qu'on lui fasse confiance, car il est doux et humble de cœur. Et nous trouverons du repos pour notre âme. Ça ne va pas avec les enfants. Ils ne s'en sortent pas à l'école. Tourne-toi vers Dieu. Fais-lui confiance. Seigneur, donne-moi la stratégie. Dois-je monter ou dois-je descendre? Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je aller voir le médecin ou quel spécialiste? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a plein d'histoires où des parents ont consulté Dieu et Dieu leur a donné des stratégies. Dieu leur a montré quoi faire. Il y a des enfants qui sont plus musicaux que littéraires, qu'ils aiment moins se lire, mais ils sont très musicaux. Et la musique les aide à étudier. J'ai eu un songe où Dieu me montrait que mon garçon avait une batterie et que ça allait l'aider pour ses mathématiques. On a acheté une batterie. On a économisé, on s'est procuré une batterie. Et il y a eu une période de sa scolarité où il mettait ses feuilles d'études et puis il jouait de la batterie puis il regardait ses maths. Il faisait des multiplications. Dieu donne des stratégies. Et là, on est dans un cas où Dieu a donné une stratégie à David. Et ce qui est intéressant, c'est que alors que ces 200 hommes sont restés à un torrent, ils se reposaient, David et les 400 autres hommes se sont battus pour eux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'ils sont arrivés chez les Amalécites, qui se réjouissaient à cause du grand butin qu'ils avaient eu, on dit au verset 17 que David leur porta des coups depuis l'aube de ce jour-là jusqu'au lendemain soir. Donc, du petit matin, du dimanche matin, jusqu'au lundi soir, par exemple, il s'est battu contre ces hommes. Et la parole nous dit, aucun d'eux ne put s'échapper, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Et David sauva ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces deux femmes. Verset 19, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni quoi que ce soit du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Verset 20, David prit tout le petit et le gros bétail, ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, voici le butin de David. Et cette semaine, je disais à quelqu'un, s'il y a une publication comme ça, voici le butin de David, c'est que ça devait être conséquent. Les Amalécites se réjouissaient du grand butin qu'ils avaient pris parce qu'ils ont été à plusieurs endroits. Mais David récupéra non seulement tout ce qui avait été pris dans sa ville, mais aussi les autres richesses que les Amalécites avaient. Je crois que ça illustre une réalité spirituelle. Lorsqu'on se confie en Dieu, Dieu nous donne plus que ce qu'on espérait. Et à travers cette période où David a lutté, ça parle de persévérance. Pendant que David se battait, il y avait ces 200 hommes au torrent qui attendaient. Donc, ils devaient persévérer dans la confiance que David et leur ami allaient revenir. Vivre le repos de Dieu demande de persévérer, de continuer à faire confiance à ce que Dieu dit. C'est important de mettre et de garder notre confiance en Dieu. C'est important de dire, Seigneur, je me suis tenu devant toi, mais je sais que ta parole est oui et amen. Ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Et des fois, il y a des personnes qui vont venir nous dire, mais oublie Dieu, oublie la promesse qu'il t'a faite, oublie le repos, oublie la restauration, ça ne marchera pas. Viens, je vais t'emmener voir quelqu'un qui peut lire dans les mains et te dire ce qui va prendre place. Viens, vas-y, oublie l'engagement que tu as fait d'attendre la réponse de Dieu. Tu persévères au travail, tu gardes un bon témoignage, mais on ne te donne pas de promotion. Oublie ça. Tu devrais sortir des histoires sur tes collègues pour te faire une place. Vous savez, il y avait un homme qui travaillait dans le domaine des assurances. Et il gérait des portefeuilles de clients assez importants. Et il travaillait tellement bien qu'on considérait qu'il allait devenir un genre de vice-directeur pour toute une succursale aux États-Unis pour cette compagnie. Et on avait cette perspective pour lui, et lui, il était conscient de ça, que par la suite, il allait être vraiment un directeur commercial, vraiment un directeur important de la compagnie. Et puis là, lors de la période des promotions, c'était un collègue qui était moins performant, moins qualifié que lui, qui a eu le poste. Et tout le monde a été surpris, et notamment cet homme. Et dans ce cas, c'était une situation de racisme. Parce qu'il était noir, il n'a pas eu le poste. Et il est allé voir son pasteur. Il lui a dit, voici la situation. Tout le monde savait que c'était moi qui devais avoir ce poste de vice-directeur. Et ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que tout le monde est conscient que c'est vraiment une injustice qui a été posée à son endroit. Et son pasteur lui a dit, regarde ce qu'on va faire, on va prier ensemble. Que Dieu soit ta justice. Et il dit, mais c'est difficile, tu sais, je vais lundi, je vais retourner au travail, puis tu sais, comment ça va être? Et ils ont prié ensemble. Et le pasteur a demandé à l'épouse de cet homme de venir, et tous les trois, ils ont prié. Et pendant qu'ils priaient, cet homme a dit, Seigneur, je te remets tout, je te donne cette situation. On se tourne vers toi et je te fais confiance. Que je demeure le meilleur employé. Que ce nouveau vice-directeur sache que je serai son meilleur élément dans son équipe. Et lundi, à la première heure, il est allé voir son collègue qui a eu la promotion. Il l'a félicité. Il a dit, tu sais, je serai ton meilleur employé. Si tu me demandes de faire tel chiffre, je ferai le double parce que je vais être ton meilleur employé. Et pendant un certain temps, il a travaillé comme ça. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui le contacte par courriel et dit, j'aimerais te rencontrer parce que j'ai une proposition à te faire. Et c'est drôle, hein, le temps a passé et tellement il était un bon employé qu'il faisait pas mal de bonus et il était comme satisfait. Il dit, mais tu sais, ça fonctionne bien en ce moment. Puis, je n'ai pas vraiment de perspective de changement. Et puis, cet homme lui dit, non, je tiens à ce qu'on se rencontre. J'ai entendu parler de toi et j'aimerais te faire une proposition. Donc, il dit, bon, ben, si tu m'offres un souper, c'est un souper gratuit, ça ne coûte rien. Donc, il y va. Il va à ce souper et puis il rencontre cet homme qui est un chasseur de tête qui cherche justement des employés pour des postes intéressants. Puis, il dit, regarde, J'aimerais t'offrir ce poste. On a entendu parler de toi, puis on a quelque chose à te proposer. C'était une personne qui gagnait plus de 100 ou 200 000 dollars par année. Donc, c'était quelqu'un qui était quand même bien à l'aise, qui était à l'aise financièrement. Et ce chasseur de tête lui dit, on a une proposition à te faire dans telle autre ville, dans un autre état. On veut que tu deviennes le vice-président de la compagnie pour l'État où se trouve cette entreprise. Et il dit, ah oui. Et dit, mais en ce moment-là, on est stable. Je ne pensais pas déménager, donc ça ne m'intéresse pas vraiment. Et puis, le chasseur de tête lui glisse une petite feuille pliée en deux. Il dit, regarde, avant de me donner une réponse, jette un coup d'œil. Et là, tu sais, quand tu as une augmentation de salaire, tu sais, quand tu gagnes, disons, 10 000 de plus par année, tu es content. Okay? Mais là, quand on parle du salaire qu'il gagnait actuellement, on parle de 200 000 dollars à peu près. Il prend la feuille, il regarde, puis il a un choc, il est surpris. Parce que c'est pratiquement le double de ce qu'il gagnait. Donc là, il est choqué et il est vraiment surpris et le chasseur de tête croit qu'il est insulté, que sa réaction, c'est un sentiment d'insulte qu'on ne prend pas à la hauteur de ses qualifications, de ses compétences. Et là le chasseur de tête lui dit, non, on va tripler. On va tripler l'offre. Et là, il a dit, attends, il faut que j'en parle à mon épouse et que je prie. Mais vous voyez la justice de Dieu qui prend place. Pourquoi ? Parce qu'il s'est confié en Dieu. Il a dit, je ferai de mon mieux. Je serai le meilleur employé. Vous savez, être dans le repos de Dieu, ce n'est pas de cesser nos activités. C'est de marcher c'est de marcher avec Dieu dans la confiance qu'il est notre secours et qu'il nous conduit. David avait compris cela et il a communiqué cela à ses hommes. Non seulement dans une situation d'angoisse, il a changé l'atmosphère parce qu'il a mis sa confiance en Dieu et ses hommes l'ont suivi, mais ceux qui étaient fatigués et épuisés ont été bénis aussi. Au verset 21, il est dit, David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Besor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et de sa troupe. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient. Ce que je veux qu'on saisisse, c'est que Dieu ne regarde pas ton activité, mais Dieu regarde à l'état de ton cœur. Dieu veut prendre soin de ton cœur. Dieu veut protéger la relation qu'il a avec toi. Ou il veut la bâtir parce qu'il t'a choisi. Il a choisi ton collègue. Il a choisi ta voisine. Il a choisi tes enfants. Et quand on parle des enfants, des fois on se dit, Seigneur, on n'a pas tous les outils, on n'a pas le mode d'emploi pour pouvoir leur communiquer le meilleur. On fait de notre mieux. Mais en tant que parents, on doit se rappeler que Dieu a choisi nos enfants. Qu'on ne soit pas un obstacle. Qu'on ne soit pas comme ces hommes au verset 22 qui vont dire, tous les hommes méchants et les vauriens qui avaient accompagné David, pris la parole et dire, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé à part à chacun sa femme et ses enfants. Qu'il les emmène et s'en aille. On ne peut pas être comme ça avec nos enfants. Alors, oui, on ne dira pas ça. Mais la dureté du cœur qu'on exprime envers notre épouse ou notre époux, les colères qui sont comme des volcans, des tsunamis, des tremblements de terre qui envahissent la maison au point que tu as l'impression qu'il faut rebâtir après l'incendie. Parce que Dieu les a choisis aussi. Que nous puissions être comme David. Qui disent, mais comment ça va? Comment va ton cœur? Comment vous vous portez? Comment ça a été à l'école? Je veux dire, mais on est angoissé. Leur partager, des fois, on a des situations difficiles à la maison. On a des choix à faire, mais le choix qu'on fait, c'est de se tenir devant Dieu pour avoir une réponse. Qu'ils soient conscients du fait qu'on se tourne vers Dieu. Que notre collègue dise, mais si ce gars, c'est un chrétien, moi, je ne veux rien savoir. Hein? Parce que il flirte avec les collègues de l'étage d'au-dessus. Il flirte avec les filles qui travaillent à tel endroit. Mais qu'on soit comme David. Dire, Seigneur, je me tourne vers toi. David a peut-être fait, et oui, il a fait un mauvais choix d'aller en guerre. S'il était resté dans sa ville, il aurait pu défendre sa ville. C'est vrai. Mais David ne s'est pas arrêté là. Il a dit, Seigneur, je me tourne vers toi. Vous savez, des fois, nos erreurs de maintenant peuvent être réparées en nous tournant vers Dieu. Ne reste pas dans les erreurs du passé, Mais tourne-toi vers Dieu. Demande-lui pardon. Seigneur, je te demande pardon pour porter l'éphod. C'était seulement le sacrificateur qui pouvait le porter. Donc il y a une démarche dans le cœur de David, dit Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai besoin de m'approcher de toi. Il avait cette confiance que Dieu pouvait lui pardonner à cause de l'attitude de son cœur. Ne restons pas sur nos erreurs du passé parce que Dieu n'est plus là. Vivre le repos de Dieu, c'est se tenir là où il est. Dieu n'est plus dans tes erreurs du passé. Dieu n'est pas dans tes erreurs d'aujourd'hui. Il t'attend dans le lieu de la repentance. Il t'attend dans ce lieu de rencontre avec lui. Et je crois qu'il est nécessaire que non seulement nous puissions le vivre, mais que plusieurs te voient le vivre. Parce que tu es en train de semer dans leur vie l'espoir. Tu es en train de semer dans leur vie une porte de sortie lorsque les épreuves viendront dans leur vie. Vivre le repos de Dieu. Et je veux m'arrêter là sur cette dimension de rester assis. Et j'aimerais inviter les musiciens. Vous savez, il y a des choses qui bloquent, des fois qui peuvent nous bloquer. D'être conscient que Dieu nous choisit. Des fois, il y a des mensonges qui vont nous bloquer. Et alors que l'équipe de louange va nous conduire dans un temps de louange avec un chant, j'aimerais qu'on regarde dans notre cœur et dise, Seigneur, y a-t-il des choses, y a-t-il des situations, des comportements que j'ai eus qui m'ont fait agir comme ces hommes méchants et vauriens. Seigneur, je veux me repentir de cela parce que je veux agir comme David, qui s'est occupé du cœur de ceux qui étaient trop fatigués. David a choisi d'aimer ces 200 hommes-là. David a choisi de prendre soin d'eux. David a fait le choix, comme Dieu fait le choix de nous choisir. Il te choisit. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le lieu où tu te trouves, Dieu te choisit. Et il veut que tu vives une restauration. Il veut que tu vives la guérison. Il veut que tu vives le salut. Il veut que tu prennes ses exigences. Il veut que tu portes son joug, que tu te mettes à son école, parce qu'il est doux et humble de cœur. Des fois, il y a des mensonges qui font en sorte qu'on se tient loin du repos de Dieu. Des mensonges comme « je dois gagner mon ciel. Je dois d'abord m'aider et le ciel m'aidera. » Ce n'est pas biblique. Je ne dois rien devoir au Seigneur. C'est trop d'orgueil, ça. Mais ton âme soupire au repos qui se trouve en Dieu. Ton âme soupire pour vivre le repos de Dieu. Ce matin, je pense que le Seigneur veut s'attaquer aux mensonges. Tu n'as plus besoin de te comparer à l'autre. Il dit, ah, elle chante trop bien. Elle chante tellement bien que le ciel doit être ouvert. Dieu l'aime. Moi, je ne sais pas chanter. Tu n'as pas besoin de t'en comparer. Tu peux chanter comme une casserole. Ce n'est pas ça qui est important. Si tu adores Dieu, si tu parles à Dieu de tout ton cœur, c'est ce qui est correct. Voilà ce que je vous proposais. Qu'on puisse examiner nos cœurs. Qu'on puisse se poser la question, y a-t-il un mensonge auquel je crois qui m'empêche de vivre le repos de Dieu? Qui m'empêche d'aller puiser de nouvelles forces en me confiant en Dieu? Y a-t-il des mensonges qui m'empêchent de me tourner vers Dieu, vers Jésus? Y a-t-il des mensonges qui me poussent à ne pas vouloir écouter Dieu, plonger mes regards dans la parole de Dieu? Vous savez, j'ai aimé ce que notre sœur Emmanuel un jour a apporté. Tu dis, on dit, ah, je n'aime pas lire. Mais on va passer des heures sur Facebook à lire des histoires. Non, tu aimes lire. Tu aimes lire. Tu peux dire, j'aime lire. Si tu aimes lire des histoires, la Bible est pleine d'histoires. Et Dieu va te parler. Ce mensonge de croire que je ne suis pas assez digne. Mais Jésus a payé le prix pour toi alors qu'on n'était pas digne. Tu peux t'approcher de lui. Alors je vous invite à vous lever. Et on va afficher un texte. C'est la dernière diapositive. Et pendant que l'équipe de louange va nous conduire dans un temps, va nous ramener dans la présence de Dieu. C'est comme si on est en train de dire, Seigneur, on se tourne vers toi et comme David, on veut prendre l'éphod. Seigneur, je dépose ma veste, je dépose les masques, mais je prends l'éphod parce que c'est entre toi et moi. Et Seigneur, je veux me séparer de tout mensonge qui me sépare de toi. Et ce texte dit, juste l'écouter, au nom de Jésus, je renonce au mensonge. Et s'il y a un mensonge, quelque chose auquel tu crois, qui t'empêche de t'approcher de Dieu, tu dis, je renonce à ce mensonge et tu le nommes. Et ensuite, tu vas dire, je le cloue à la croix de Jésus-Christ et je l'envoie loin de moi pour qu'il ne revienne plus jamais. Et tu vas dire ensuite, Saint-Esprit, toi l'Esprit de vérité, quelle vérité voudrais-tu me donner à la place? Tu penses que tu as besoin d'un autre, de quelqu'un d'autre, pour être heureux. Sache que Jésus te suffit. Si tu crois que tu ne peux pas porter tes responsabilités parce que tu as échoué, tu peux réessayer à nouveau. Parce que Dieu est celui et le Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance. David a fait beaucoup d'erreurs. Mais pourquoi il est appelé un homme selon le cœur de Dieu? C'est parce qu'il savait se repentir. Il était entier dans tout ce qu'il faisait. Et il était entier devant Dieu. Lorsque Dieu lui disait, monte à tel endroit, il obéissait. Lorsque Dieu lui montrait que ce qu'il faisait était mal, il se repentait. Il écoutait Dieu et il lui obéissait. Ce matin, Dieu veut qu'on soit séparés de mensonges qui nous éloignent de lui et qui nous empêchent de vivre dans le repos de Dieu. Oh, en se tournant vers Jésus, comme David l'a fait, l'atmosphère dans ton cœur va changer à un tel point que l'atmosphère autour de toi va changer. David a pris ses responsabilités. Il ne s'est pas apitoyé sur ses choix, mais il s'est appuyé sur le roi des rois. Il n'a pas fait comme les autres, mais il a regardé à Jésus. Seigneur, ce matin, nous nous tournons vers toi. Alors que nous allons être dans ce temps de louange, de prière, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs. Seigneur, il y a un lieu où tu veux nous emmener, le lieu de ta présence. Le lieu où tu es. Tu n'es plus dans notre passé à nous condamner. Mais tu te tiens dans notre futur pour nous encourager à briller et à marcher avec toi. Oh Seigneur, je te présente nos couples, nos foyers. Je te présente, oh Seigneur, nos vies, nos enfants. Là où nous avons échoué, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Seigneur, accorde-nous d'être fortifiés par ton esprit. Je rejette le mensonge où je suis un mauvais père, où je suis une mauvaise mère, où je suis un mauvais époux ou une mauvaise épouse, où je ne vais jamais trouver un époux ou une épouse. Seigneur, tu défais ces mensonges. Seigneur, nous prions que tu puisses, Saint-Esprit, alors que nous clouons ces mensonges à la croix, que nous les envoyons loin de nous au nom de Jésus. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de vérité, Seigneur, quelle vérité voudrais-tu me donner à la place de ces mensonges? Dans le nom de Jésus. Alléluia. Laissez le Saint-Esprit vous parler alors que Pasteur Christophe nous conduit dans ce chant.
Le troupeau que sa main conduit. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que sa main conduit.
Je me prosterne devant le roi.
Je me prosterne devant le roi. Je fléchis les genoux devant le Père.
Je me prosterne devant le roi.
Je me prosterne devant le roi. Je fléchis les genoux devant le Père.
Car il est mon Dieu.
Car il est mon Dieu.
Et je suis la brebis de son pâturage.
Et je suis la brebis de son pâturage.
La brebis que sa main conduit.
La brebis que sa main conduit. La brebis que sa main conduit.
Je suis la brebis.
La brebis que sa main conduit. La brebis que sa main conduit.
Oui, nous sommes le troupeau.
Le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que sa main conduit.
Oh oui, nous sommes le troupeau.
Le troupeau.
Alléluia.
Que sa main conduit. Le troupeau. Que sa main
oui,
conduit.
Nous sommes le troupeau.
Le troupeau. Que sa main conduit. Le troupeau que sa main conduit.
Nous allons
conduit.
Le dire, nous sommes le troupeau.
Le troupeau
que sa main conduit.
Que sa main conduit.
Alléluia.
Le troupeau que sa main
conduit. Je suis la brebis. Je suis la
la brebis,
O Sandaïa Baba,
que sa main conduit, la brebis, que sa main conduit.